בראשית י"ג ח', ויאמר אברהם אל לוט, אברהם דיע לוט, הלתי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו, כי אין פה דיספוט אנטר טוי ומוי מברג'ה את ברג'ה, קאר נו סום פרר, סקי די פרוש. Or, si nous sommes frères et que nous nous disputons, ça va finir par un assassinat, comme dans le cas de Caïn et Hevel. Et la raison est très simple, c'est que deux frères sont en rivalité sur le même destin. Et donc, s'ils sont en conflit, ça va se finir mal. Par contre, une dispute entre des éloignés, des lointains, n'est pas porteuse de conséquences aussi graves. Et donc, les trois possibilités qui se présentent devant Abraham, on avait vu, c'était soit la guerre, soit la justice, soit le compromis. Et on avait vu qu'Abraham a été élu. Bon, la guerre est exclue, on a compris. Maintenant, il reste soit le tribunal, soit le compromis à l'amiable. Et on avait vu que la raison de l'élection d'Abraham, dans le chapitre Yutret au verset Yutet, c'était pour faire l'unité des valeurs entre Tzedaka et Mishpat. Je reviens sur des choses que nous avons étudiées, n'est-ce pas ? Entre Tzedaka et Mishpat. Et donc chacun doit compléter ce pourquoi il n'a pas d'aptitude. C'est-à-dire, l'aptitude naturelle d'Abraham, c'est pour la tzedaka, la charité, et tandis que le mishpat, le jugement, ça, Abraham s'y connaît moins. Et donc, étant donné qu'il a une tendance naturelle à la tzedaka, il aurait dû préférer le mishpat, n'est-ce pas ? Or, ce qui se passe, c'est qu'Abraham considère qu'il faut faire ici un compromis. Verset tête. Halo kol haaretz lefanecha. Voici que toute la terre est devant toi. Tout le pays est devant toi. Où est-ce que ça s'est passé cette scène?
Dans la plaine.
Dans la plaine. Oui, bien sûr, en Eretz Israël. Mais où en Eretz Israël? Vous vous rappelez qu'il était revenu après sa sortie d'Égypte, il était revenu à l'endroit entre Bethel et Haï. Qu'est-ce qu'il y a entre Bethel et Haï? Une montagne. De cette montagne, on voit très loin, n'est-ce pas? C'est la montagne de Baal Hatzor, d'où on voit le Hermon au nord, le plateau du Negev au sud, la Méditerranée à l'ouest et le désert d'Arabie à l'est. Donc quand il dit « Kol haaretz lefanecha », tout le pays devant toi, c'est physique. C'est-à-dire, vous voyez, souvent, quand nous étudions des textes de la Torah, mais qu'on oublie la géographie dans laquelle ça s'est passé, on a des difficultés à comprendre. Mais dès que l'on vient en Eretz Israël, les textes redeviennent vivants dans la géographie. D'accord ? C'est là que, comme disait Lévinas, que cesse la métaphore. On ne parle plus maintenant en des termes abstraits, nous parlons en des termes concrets.
Du coup, il était de quel côté?
Quoi? Si on est au sommet, c'est pas difficile de se tourner de tous les côtés.
C'est-à-dire
tout ce qu'il veut autour. Oui, donc, Kolares, tout le pays est devant toi. Et ce qu'il lui dit, Hiparedna me'alai, sépare-toi donc de moi. Imasemol ve'imina v'imayamin vasmila, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est-à-dire que Abraham propose la division territorial. Il va, pour éviter le conflit, il va couper le pays en deux parties. Hein? Il a choisi le compromis. Alors donc, ça voudrait dire, et ça c'est l'argument repris par certains penseurs, comme quoi l'héritage d'Abraham serait le compromis territorial dès qu'il y a un conflit sur la terre. N'est-ce pas? C'est la position de gauche en Israël, qui dit il faut séparer le territoire en deux. Et il se réfère, entre autres, à Abraham. N'est-ce pas? Bon.
Pourquoi Abraham donne le droit à l'autre? Il donne le droit de prendre une part de
territoire. Pour faire la paix. Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Ah, très bonne question. Est-ce que Dieu a donné ce territoire à Lot? Non. Et donc, le problème est, quel serait le droit d'Abraham de renoncer à une partie du pays que Dieu lui a donné? Très bonne question, on va y répondre par la suite. Oui?
On peut dire aussi que c'est qu'il est en train de lui donner un droit sur le territoire, il est juste d'aller dans un endroit, il ne dit pas que ça va être à lui. Parce que Abraham, il n'a pas encore reçu.
Oui, alors là aussi, un problème. Là, tu commences déjà la réponse. C'est-à-dire qu'Abraham aussi n'a pas pris possession de la terre. Donc en fait, c'est du théorique. Essayons de voir un peu ce qui se passe. À qui Dieu a promis la terre ? À la descendance d'Abraham, et non pas à Abraham. Ce qui veut donc dire que Abraham se dit, bon, ben, c'est pas à moi encore, donc on va s'établir là où on veut, mais ça veut dire que quand même Lot, en faisant paître ses troupeaux, finalement va prendre possession du territoire. C'est-à-dire, en s'implantant, en colonisant, finalement, il y a également une souveraineté à un moment. Qu'est-ce qui autorise Abraham à le faire? Ben, c'est très simple, étant donné que la terre ne lui est pas encore donnée, il a le droit de la donner. C'est-à-dire, contrairement à l'idée habituelle que ce qui m'appartient, je peux le donner, c'est exactement le contraire que dit la Torah. Si ça ne t'appartient pas, tu peux le donner. C'est-à-dire, si ça, oui, parce que si Dieu t'a donné quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. C'est intégralement à toi. Par exemple, la vie. Dieu m'a donné la vie, j'ai pas le droit d'y renoncer. N'est-ce pas? J'ai pas le droit de me suicider. Par contre, si la vie n'était pas à moi, je pourrais très bien la donner. D'accord? Oui? Quoi? Pourquoi c'est bizarre? Au contraire. Si c'est quelque chose qui m'appartient en, disons, en absolu, j'ai pas le droit de le donner. C'est comme si je renonçais à moi-même. C'est-à-dire, si quelque chose m'est donné par Dieu, c'est-à-dire, ça veut dire par celui qui m'a créé. Donc, ça fait partie intégrante de mon être. Par contre, si c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, donc je peux dire, prends en possession, de toute façon, c'est pas à moi.
Si je fais ça, c'est-à-dire qu'il y a renonce, c'est l'enfant.
Ah, très bonne question. Ça veut donc dire que les enfants d'Abraham devront faire la guerre aux enfants de Lot. Oui. Donc le conflit n'est que repoussé. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, Abraham se dit, ce qui sera dans l'avenir, on verra bien. Pour l'instant, j'ai réglé le problème dans l'immédiat. C'est-à-dire ce qu'on appelle shalom arshav, c'est-à-dire la paix immédiate. Et les conséquences, ben, on verra bien. D'accord? C'est ça la position d'Abraham. D'accord? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'étudie la Torah tout le temps, donc je ne sais pas ce qui se passe dans l'actualité. Je ne lis pas les journaux. Bon. Donc.
C'est le mouvement que vous avez parlé.
Oui. Alors maintenant, voyons un peu ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce qu'en dit la Torah? Oh, Todaraba, Shiav Duchamim. Baruch Ata Adonai. Eloheinu Melech Haolam Shakol Yevor. C'est comme ça qu'on commence les révolutions. Vous avez appris l'habitude de dire Baruch Baruch Shem. Bon, verset Yud. Vaïssa Lot et Ainav, Vayar et Kol Kikar Ayarden. Lot leva les yeux, c'est-à-dire qu'il a regardé au loin, et il a vu toute la plaine du Jourdain. Kichulla Mashke, elle était entièrement irriguée. Lifne, Shachet Hashem et Sedom et Amora, avant que Dieu ne détruise Sodom et Gomorre. Kegan Hashem, comme le jardin de Dieu. Keretz Mitzrayim, comme le pays d'Égypte. Boacha Tsoar, en direction de Tsoar. Vaifhar Lot et Kol Kikara Yarden. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vaïssa Lot Mikedem. Lot partit de l'Orient. Vaïparedu, Ish Mealachiv, ils se séparèrent l'un de son frère. Avraham Yashav, Beretz Kenan. Abraham résida dans le pays de Kénan. C'est quoi le Kénan? C'est du Jourdain à la mer. Vélot yachab be'area kikar. Et Lot s'est installé dans les villes de la plaine, c'est-à-dire en Transjordanie. Vayehal at Sedom, il tenta, c'est-à-dire il mit ses tentes jusqu'à Sedom. Ve'anche Sedom ra'im ve'hatayim la'shem me'od. Les hommes de Sedom étaient méchants et pécheurs envers Dieu beaucoup. Bon, alors jusque-là, on a compris, Abraham sépare le pays en deux. Le but, c'est d'éviter le conflit. D'accord? Qui n'a pas été consulté dans cette histoire? Hachem n'a pas été consulté. D'accord? Donc Abraham mène sa politique sans demander l'avis d'en haut. Vachem Amar et l'Avraham Achari paré de Lot Meimo. Or Dieu avait dit à Abraham après que Lot l'ait quitté. Et là, on va voir enfin la réaction. Qu'est-ce qu'en pense le bon Dieu, lui? Sana et Nechaur et lève les yeux et vois. Minamakom, ma chère Atacham, de l'endroit où tu es maintenant. C'est quoi cet endroit? La montagne, Arbal Chatzor, entre Bethel et Haï. D'où on voit tout. D'accord? Tsafona vanegba, au nord, au sud, vakedma vayama, à l'est et à l'ouest, qui est kol haaretz asher ataroé, car tout le pays que tu vois, y compris donc ce que tu as donné à Lot, là il y a un chidouche, lecha etnena, c'est à toi que je le donne, ulzaracha adolam, et à ta descendance jusqu'à l'éternité. Alors, ça veut dire que la lacune juridique qui avait été exploitée par Abraham, qui disait « c'est seulement à ma descendance que tu as donné », cette lacune est comblée. Il lui dit maintenant « à toi et à ta descendance ». Quoi ? Oui, mais à toi. Donc ça veut dire qu'Abraham va devoir maintenant faire la conquête, lui-même. Donc il va rentrer finalement dans un conflit plus grand que celui qu'il voulait éviter. C'est-à-dire, il y avait une erreur stratégique d'Abraham. Il s'est dit, puisque j'ai un moyen halachique, si vous voulez, une lacune dans la halacha, qui me permet de donner le pays à mon proche, eh bien, Dieu lui dit, voilà, on va maintenant colmater la brèche, et tu vas être obligé de prendre toi-même possession du terrain. Regardez au verset Yudzaïn, si vous sautez un verset, « Kou mithaler ba'aretz, va, lève-toi et chemine dans le pays, » Léorka ou l'Rochba, dans sa longueur et dans sa largeur. Kilecha etnena, car c'est à toi que je vais le donner. D'accord? Vayéa, l'Avram, vayéa, 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 l'Avram mit ses tentes et s'installa dans les plaines de Mamré, qui est à Chevron. Vayéa, misbeach l'Hachem, il y construisit un hôtel pour Dieu. Jusqu'à présent, il était donc entre Bethel et Haï, il passe maintenant à Chevron. Chevron, c'est où par rapport à Bethel et Haï? Au plus au sud, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit de Chevron? On voit la mer morte. Ça veut dire qu'il va être spectateur de la scène. Vayehi, et alors ce fut, et brusquement donc intervient ainsi un conflit armé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Bon, Vayehi bimei Amraphel melech Shinar. Ce fut du temps d'Amraphel, roi de Shinar. Qui est cet Amraphel en question? Une possibilité probable, c'est qu'il s'agit du roi de Babylone, Hammurabi. Le fameux Hammurabi, l'auteur du code de Hammurabi, appelé ici Amraphel. Shinar, c'est, on avait vu pour la tour de Babel, c'est le lieu où on a mis la tour de Babel. Arior, oui? Qu'il s'agit de Hammurabi, pour une raison très simple. D'abord, c'est que chronologiquement, ça correspond, selon les chronologies, disons, actuelles. C'est-à-dire, Hammurabi a changé de chronologie plusieurs fois. Actuellement, on pense que c'était à peu près du temps d'Abraham, au XVIIIe siècle. À part ça, Amraphel et Hammurabi, ça ressemble. Ouais. Hammurabi, c'est dans certains endroits, on l'appelle Hammurabi. D'accord? Bon.
Shinar, c'est le
lieu de... c'est le lieu de Babel, oui, c'est l'ancien Sumer. Arior, Melech Elassar. Arior, roi d'Elassar. C'est où ça, Elassar? Elassar, à nouveau, selon les archéologues, serait la ville de Larsa, qui est à côté de Babylone. C'est une autre principauté. Kedor la Omer, Melech Elam. Kedor la Omer, roi de Elam. C'est où ça, Elam? C'est ce qu'on appelle la Susiane. La Susiane, c'est un district de l'Iran actuel, qui est à la frontière irakienne. C'est là, quand il y a eu la guerre Iran-Irak, c'était le lieu disputé, appelé par les Iraniens Koujistan et par les Irakiens Arabistan. D'accord? Bon. C'est la région de la Susiane, Elam. Vetidal, Meler Goyim, et Tidal, roi de Goyim. C'est où ça, Goyim? Alors, à nouveau, c'est difficile à déterminer, mais c'est probablement le district de Gouta. Gouta, qui est au nord de Babylone. D'accord? Tout ça, c'est dans à peu près donc des voisins. Ça s'appelle, dans l'ensemble, la Mésopotamie. D'accord? Le pays des deux fleuves. Comment? Hein? Gouta, c'est un peu au nord de Babylone. D'accord? Bon. Ce sont donc des rois qui règnent assez loin. D'accord? Quelle est la distance entre Babylone et tous ces environnements? Et Eretz Israël. Hein? 1000 kilomètres. D'accord? 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Maintenant, remarquez une chose. Entre Babylone et Eretz Israël, il y a, si on va en droite ligne, il y a un désert, le désert d'Arabie. Le désert d'Arabie est infranchissable à l'époque pour une armée. C'est sec. Il n'y a pas où s'approvisionner. Une armée importante ne peut pas traverser 1000 kilomètres de désert. Donc, que doit faire une armée pour arriver en Eretz Israël? Ils doivent passer par le nord et passer après au sud. C'est-à-dire que ça allonge de beaucoup le trajet, ça fait 2000 kilomètres. 2000 kilomètres entre Babylone et la région de Sodom, dont il va être question. Or, ce qui se passe, c'est important de, vous voyez bien la carte, si vous avez une carte, réfléchissez. Asu milchama, ils ont fait la guerre. Et Bera meler Sodom, avec Bera, roi de Sodom. Ved Birsha, Melech Amora, et avec Birsha, roi d'Amora. Je traduis pour que vous compreniez. Shinav, Melech Adma, avec Shinav, roi de Adma, Veshem Ever, Melech Tsevoim, Veshem Ever, roi de Tsevoim, ou Melech Bela, Hitzoar, et le roi de Bela, qui est Tsoar. Kol Ele, Haveru El Emek Asidim. Tous ceux-ci se sont réunis dans la vallée de Sidim, Hu Yamamelach, qui est aujourd'hui la mer morte. Oui.
Pourquoi Hi, c'est déjà ce féminin, c'est ceux qui
étaient. Non, Hi, ça veut dire la ville.
Ah.
Elle, la ville de Bela, est Tsoar. Le nom du roi de Bela n'est pas mentionné.
Juste,
oui. Disons que la partie sud de la mer morte n'est pas profonde. La partie nord est très profonde. Non seulement la mer morte est 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, mais la profondeur de la partie nord, c'est encore 400 mètres. Ça fait beaucoup, c'est très rare une mer si profonde. Par contre, la partie sud, c'est 20 mètres. Et il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que cette partie était soit inondée, soit sèche. Donc, ça veut dire qu'au temps d'Abraham, la partie sud de la mer morte est sec, est à sec, tandis que du temps où la Torah est écrite par Moshe, c'est Yamamela. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Bon. Shetem Aisre Shana Avduet Kedor Laomer. Pendant 12 ans, ils ont servi Kedor Laomer, donc qui est à la tête de la coalition en question. Ushlosh Esre Shana Maradou, et 13 ans, ils se sont révoltés. Alors, c'est très bizarre que des rois qui sont si loin, dominent des petites villes, des villes qui sont relativement petites, à une distance pareille. On peut le comprendre si on sait, d'ailleurs par l'archéologie, que les villes de Sodome et Gomorre, etc., étaient des villes marchandes. Elles étaient des villes de commerce très importantes. Et donc, ils avaient un intérêt à dominer ces endroits-là. Maintenant, remarquez une chose, au-delà de Sodome, si vous continuez un peu vers l'ouest, vous tombez sur Canaan. Canaan, là où se trouve Abraham. D'accord? Mais il semble donc que la limite de l'empire des Babyloniens en question, c'était le Jourdain. C'est-à-dire que le Jourdain était une frontière internationale entre deux zones d'influence. Qui c'est qui dominait Canaan à l'époque? Non. Les Égyptiens. C'est-à-dire, il y avait à l'époque deux grandes superpuissances, c'est un peu comme si vous dites les États-Unis et la Russie, ou la Chine, d'accord? Eh bien, à l'époque, l'empire du monde était partagé entre les Égyptiens au sud et les Babyloniens à l'est, d'accord? Hein? Comme à l'époque du premier temple, effectivement. Bien que à l'époque du premier temple, il y a également les Assyriens, il y a un peu de tout, d'accord? Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, c'est très important de comprendre ça pour comprendre le trajet. La Torah va nous dire le trajet qu'ils ont fait, d'accord? Avec leur armée. Regardez au verset He. Uve Arba Esre, est-ce que vous avez un feutre pour tableau? Non. Parce que si y en avait, hein? C'est pas très pratique ça pour le tableau, ça va.
Il n'y a pas la
Hein?
Si c'est fait ça.
Ouais, ça s'efface. Bon, alors on va s'en servir. Simplement, si vous pouvez amener le tableau ici, ça serait très sympa de votre part. Voilà. Attention, attention, attention. Ne faites pas de bêtises. Là. Mais derrière, pour que ça passe également. Ah, très très bien, très très bien. Mes félicitations. Voilà, je trouve ça remarquable. Vous avez reçu la coupe? Ouais, bon, c'est bon. D'accord, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Une kippa, c'est mieux. Bon, alors, tout d'abord. Enfin, autant que je peux. Bon, alors ça représente de manière très extrêmement schématique le Proche-Orient. Donc, les quatre rois sont dans cet endroit-là, n'est-ce pas? Ça, c'est les quatre rois. Ils vont faire la guerre aux rois de Sodome et Gomorre et Adma et Tsevoïm. Donc, ils vont faire tout ce trajet-là et arriver là, n'est-ce pas? Bon. Ah, encore mieux. Sodaraba. Bon, vous avez compris le topo? Bon, maintenant nous allons faire une réduction.
Hein? C'est Israël, là?
Non, ceci est le Proche-Orient. Maintenant, ça c'est l'Égypte, ça c'est la mer Rouge, le golfe Persique, tout ça. Maintenant nous allons effacer. Et nous allons rentrer plus dans le détail. Bon. Alors, regardons un peu ce que nous dit ici le verset Hé. Ouvarba Esrechana, Ba Kedorla Omer, Va Melachim Asherito, lors de la 14e année, Kedorla Omer et les rois qui lui étaient associés sont venus. Vayaku, ils ont frappé. Frapper, c'est un euphémisme pour dire qu'ils ont exterminé. Qui c'est qu'ils ont exterminé? Et Rephaïm, les Rephaïm. Non, Rephaïm en hébreu moderne, ça veut dire des fantômes. Mais les Rephaïm, c'est une ancienne population de Transjordanie, c'était des géants d'ailleurs. Et Vayakud Rephaïm, Ashterot Karnaïm. Ils ont exterminé les Rephaïm à Ashterot Karnaïm. Mais c'est où ça, Ashterot Karnaïm? Oui, mais c'est où? C'est dans la région de Djebel Druz. Le Djebel Druz, c'est là. C'est-à-dire la montagne des Druzes, au sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne.
Donc,
ils ont fait une pause, ils ont exterminé dans leur pause, d'accord?
Des géants,
hein?
Ils ont exterminé des géants?
Ils ont exterminé des géants, oui. Des géants, ça veut dire quoi, des géants? 2 mètres et demi?
Ouais, des grands.
D'accord, des grands, quoi, voilà. Et après, ils ont tué qui encore? Vetazuzim, Beham. Ils ont exterminé les Zuzim à Ham. C'est où ça, Ham? Ham, c'est là. C'est une ville qui existe encore jusqu'à ce jour, qui s'appelle Ham, en Transjordanie, qui est en face du kibbutz Ashdot Yaakov, pour ceux que ça intéresse. Donc, ils ont également tué les Zuzim. Veta Eimim, Beshavé Kiryataim, ainsi que les Eimim à Shavé Kiryataim. Qui sont les Eimim? Ce sont les anciens habitants du pays de Moab, c'est là. D'accord? Il tue donc beaucoup de monde. D'accord? Où sont les villes de Sodome et Gomorre? Elles sont là. Enfin, à peu près dans cette région-là.
Sur la montagne,
il y a... Ah, comment?
Sur la montagne, quoi. Il y a une montagne qui est sur
le... Quoi?
De Arsdom.
C'est une petite colline à côté de Sodome, mais c'est très, très en bas. C'est près de la mer Morte. C'est dans ça, hein, oui. Bon, maintenant.
En 14
ans, ça va. Oui? En 14 ans, non, non, ils sont venus la 14e année, ils ont... ils ont préparé la guerre. Une guerre, ça se prépare. Bon. Ils avaient aussi d'autres préoccupations. Ils avaient un théâtre à développer, et également des relations culturelles avec l'empire perse de l'époque, et donc ils étaient occupés également à faire un congrès international d'éthique babylonienne, et donc ça leur a pris du temps. Voilà, c'est tout. C'est n'importe quoi. Hein. Bon. Soyons précis. Bon. Maintenant, si j'étais à leur place, où est-ce que j'irais maintenant? Hein? À Sdom, d'accord? Or, c'est pas ça qu'ils font. Ve'et achori be'ariram se'ir. Ils ont tué les Chori dans leur montagne de Seir. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont manqué la flèche. Ils sont arrivés plus au sud. Bon. Ad El Paran, Asher El Amidbar, jusqu'à El Paran, qui est près du désert. Selon les historiens, El Paran, c'est la ville de Elat. Non, mais ça va pas. Ils ont manqué 150 kilomètres, ils se sont rajoutés. Bon. Vayashuvu, il revint. C'est-à-dire qu'il revient, il revient vers le nord. Vayavu el En Mishpat Ikadesh. Ils arrivèrent à En Mishpat, qui est Kadesh. C'est où ça? En Mishpat, qui est Kadesh, la ville de Kadesh, c'est l'ancien nom de la ville de Petra. Vous connaissez la ville de Petra? En Transjordanie, où il y a le palais taillé dans le roc. Ouais. D'accord? C'est très beau. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans un beau Petra. Vous voyez comment? Oui, ouais, bien sûr, plein de touristes. Bon, donc en tout cas, ils reviennent vers le nord. Vayaku et Kol. Quoi? Hein?
On dit. Vayaku El Mishpat Ikadesh.
Oui, qui est
Kadesh? Elle est Kadesh?
Elle s'appelle Kadesh.
Mishpat, c'est son nom, El Mishpat.
Et du temps où Moshe écrit la Torah, c'est Kadesh. Ah. À l'époque où ça s'est passé, ça s'appelle El Mishpat, et après ça s'appelle Kadesh. Kadesh qui est devenu, comme je l'ai dit, un beau Petra pour faire une vanne supplémentaire. Donc voilà. Bon, maintenant, et qu'est-ce qui se passe après? Vayaku et Kol Sede à Amaleki. Et ils ont exterminé tout le champ des Amalécites. C'est là, au sud de la mer morte. Vegam et Aemore à Yoshe Bechatseton Tamar, ainsi que les Émoréens qui habitent à Chatseton Tamar. C'est quoi Chatseton Tamar? C'est la ville de En-Gedi. En-Gedi. Comment? Hein? Oui, c'est-à-dire d'abord qu'ils ont tué beaucoup de monde, mais vous avez remarqué qu'ils ont fait en fait un mouvement tournant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer tous ces gens-là? Ben, c'est très simple, c'était probablement des alliés de Sodome. C'est-à-dire que non seulement ils font la guerre à Sodome, mais en fait Sodome et Amora sont à la tête d'une coalition locale qui se révolte contre les Babyloniens. Oui.
Ils ne sont pas tous réunis à la première ou à la deuxième ville quand ils ont vu que...
Ben parce qu'à l'époque, les communications ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire l'Internet est tombé et donc il n'y avait pas les moyens d'entrer en communication. Et alors, c'est à ce moment-là seulement qu'ils vont faire la guerre. Regardez au verset Chet, « Vayetse meler sedom ou meler amora ou meler hadma ou meler tseboi ou meler bela itsoar » Donc les cinq rois en question sortent. « Vayarhu itam milchama be mekasidim » Et ils ont fait avec eux la guerre dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire ici. Maintenant, vous avez remarqué que ils vont donc exterminer toutes les populations de Transjordanie, le sud, ils reviennent, ils vont gratter le territoire, la limite est de Canaan. Où est-ce qu'ils n'entrent pas? En Canaan. Pourquoi ils n'entrent pas en Canaan?
Parce que c'est aux Égyptiens.
Ça appartient à la domination égyptienne. C'est-à-dire, rentrer en Canaan, c'est transformer le conflit local en guerre mondiale. Donc, il était très important pour les rois en question de ne pas entrer en Canaan. Quelle est la conclusion de ça? Ça veut dire que si Lot était resté auprès d'Avraham et qu'Avraham avait fait un jugement, il serait allé au tribunal pour faire la justice pour voir qui a raison, jamais Lot n'aurait été à Sodome. Et jamais il n'aurait été empêtré dans la guerre en question. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu vois, tu as voulu éviter le conflit avec Lot, regarde dans quoi tu vas rentrer maintenant. D'accord? Verset Yud. Vehemek Asidim Beerot Beerot Chemar. La vallée de Sidim était remplie de puits de bitume. Vayanusu meler Sodom va Amora vaipelu shama. Le roi de Sodome et le roi d'Amora se sont enfuis et ils sont tombés. Vanisharim et ceux qui restaient, Hera Nasu, se sont enfuis vers la montagne. quelle montagne? Non, c'est trop loin. Bar Hatzor, c'est là. C'est un peu difficile de fuir de là à là.
Je crois qu'il y a des montagnes en Jordanie.
Il y a des montagnes ici, et il y a des montagnes ici. C'est-à-dire, si je fais ici une coupe du terrain, ceci est la mer Morte, ceci est la mer Méditerranée, d'accord ? Il y a 400 mètres de différence. Là, c'est les montagnes de Hebron. Là, c'est les montagnes de Transjordanie. D'accord ? Alors, maintenant, on dit les fuyards se sont enfuis vers la montagne. Quelle montagne ? Vous avez deux possibilités. Soit celle-là, soit celle-là.
Ils ne devaient pas rentrer là.
Là, il y a les armées qui ont tout détruit.
Oui, mais vous avez dit
qu'ils ne devaient
pas rentrer avec l'image.
Oui, mais les fuyards.
Ah, oui, ils sont cachés.
Bah donc, ça veut dire qu'ils sont partis par là-bas, en endroit sûr. Ils vont donc chez Abraham. D'accord ? Vaïkhou et kol rechou Sodome va Amora et kol ochla va Elihu. Ils s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions. Ils partirent. Vaïkhou et Lot va être rechoucho benachi Avram va Elihu. Et ils s'emparèrent de Lot, de ses biens, lui qui était le neveu d'Avram, et ils partirent. Vehu Yoshev bisdom. C'est parce qu'il résidait à Sodome. Ça veut dire ça lui est arrivé parce qu'il était là-bas. S'il n'avait pas été là-bas, il aurait été fait prisonnier.
Une question. En quoi, le fait qu'il soit le neveu d'Abraham, c'est un tel qui peut être pris?
Ça veut dire que, non. Ça veut dire que Abraham va être mêlé à ça.
Oui, mais est-ce qu'ils l'ont pris par rapport au fait qu'il était
neveu? Ah, alors il y a des midrashim qui disent qu'ils voulaient attirer Abraham dans le conflit. Okay. C'est pas évident. Maintenant, Abraham, n'oubliez pas une chose, c'est un allié de qui?
De l'Égypte.
Des Égyptiens. C'est-à-dire, depuis que l'histoire de Sarah, il est devenu copain du pharaon. Il a même la fille du pharaon chez lui, avec l'espérance du papa qu'il devienne son gendre. C'est-à-dire, c'est... Comment ? Hein ? Ah oui, le papa pharaon. Donc, qui est intéressé à faire le chidour. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose à l'échelle mondiale, à ce moment-là. Vayavo à Palit, et c'est alors que le fuyard arriva, Vayaged le Avram à Ivri, a raconté à Avraham l'hébreu. Vehu shochen belone mamre aemori achi eshkol vachi aner vehem baalei brit Avraham. Il était installé dans les plaines de Mamré, l'Hémoréen, qui était le proche de Eshkol et le proche de Aner, qui étaient les alliés d'Avraham. Brusquement, nous découvrons qu'Avraham n'est pas un individu seul. Il a des alliés. Ça veut dire que lui-même est un dirigeant, donc un homme politique, un roi, si vous voulez. Et il y a des rois autour de lui qui sont ses alliés. Aner, Eshkol et Mamré.
Oui. Alliés, c'est Aner, Eshkol et Mamré.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte ?
Ah oui, il y a marqué Aner, Eshkol et Mamré sont ses alliés.
Oui, donc c'est mes sources d'information sont les mêmes que les tiennes.
Il a fait la guerre pour les trois ou il s'est retrouvé pour la mémoire ?
Hein ?
Il a fait la guerre pour les trois ou il s'est retrouvé pour la mémoire ?
Non, il est un personnage important. Il représente, soit dit en passant, le pouvoir égyptien en Canaan. Il n'est pas n'importe qui. Alors, Aner, Eshkol et Mamré, ce sont des noms de lieux autour de Hebron. Par exemple, lorsque les explorateurs arrivent en Eretz Israël, ils montent jusqu'à Nahal Eshkol, jusqu'à la vallée de Eshkol. Et Mamré, c'est Eloné Mamré, c'est Hebron. Aner, bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce sont des copains d'Abraham, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a également une force politique du côté d'Abraham. Vaishma Avram Kinishba arrive. Avram a entendu que son frère a été fait prisonnier. Vayarek et Hanicha Vielide Beto. Et donc, il arma ses recrues qui étaient nés dans sa maison. Shemona Asar Ushlosh Meot. Au nombre de 318. Il a 318 soldats. C'est pas beaucoup par rapport à quatre armées. Mais enfin, c'est quand même pas mal. D'accord? Donc, il a 318 soldats. Il y a également les soldats de Aner, Eshkol et Mamré. Donc ça fait déjà une armée plus importante. Sans parler du fait qu'il y a également ses serviteurs qui vont venir. Ça veut dire que ça peut faire, disons, déjà plusieurs milliers importants de soldats. Et Abraham est à leur tête.
Juste, il nous dit avec l'autre Achim.
Oui.
En fait, c'est le beau frère Révi alors.
Quoi ? J'ai pas compris. Kinishba Achiv. Que son frère a été, son frère c'est son proche. C'est son neveu, l'autre. D'accord ? En arabe aussi, ach, ça ne veut pas dire forcément un frère, ça veut dire un proche. D'accord? D'ailleurs, à l'armée, les Israéliens s'appellent achi. D'accord? C'est-à-dire, quand on demande un service, si tu dis à un Israélien achi tavidi, tu sais, alors ça marche. D'accord? Si tu lui dis monsieur, non, ça ne marchera pas. D'accord? Bon. Vaïrdof, et il engagea la poursuite. Ad Dan. Jusqu'à Dan. C'est où ça, Dan? Ne dites pas n'importe quoi. Dan, c'est une ville, aujourd'hui un kibbutz, qui est au nord d'Israël, à peu près là. D'accord? Là-bas, il y a la source du Jourdain. C'est-à-dire qu'Abraham va engager la poursuite jusqu'à Dan. Maintenant, pourquoi? Comprenez une chose. Si vous êtes une armée qui vient d'avoir fait la guerre à cinq rois, quatre rois contre cinq rois, donc vous êtes déjà assez fatigué. À part ça, vous avez avec vous des captifs et des provisions et un butin. C'est très lourd. Ça marche lentement. D'accord? Maintenant, le meilleur lieu pour marcher lentement et lourd, c'est où? C'est dans la plaine ou dans la montagne? Dans la plaine. Donc, ils vont, les rois en question, quitter les montagnes et ils vont monter par la vallée du Jourdain. D'accord? D'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais ils vont aller en terrain plat. Et donc, c'est ça qui va permettre à Abraham, maintenant, de faire la poursuite jusqu'à Dan. Comment va-t-il faire? Verset Tetvav. Vayehalek alehem laila. Et il se divisa en différents groupes autour d'eux pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il va les attaquer de nuit. À l'époque, la guerre nocturne est très difficile. Ça veut dire qu'en fait, Abraham les attaque de temps en temps, comme par des commandos de guérilla, commandos surprise. Et donc, il va les décimer, en fait. D'accord? Pouva Avadav, lui et ses serviteurs. Vayakem, il les frappa. Vayirdefem atrova. Il a continué de les poursuivre jusqu'à Chova, à Cher Missemol, les Damasek, qui est à la gauche de Damas, et gauche, c'est-à-dire le nord. D'accord? Au nord de Damas. Donc il va encore beaucoup plus loin. D'accord? En arabe, Shamal, ça veut dire le nord. D'accord? Smol. Vayashev et Kol Arechush, Vegam et Lotachiv, ou Chusho Eshiv, Vegam et Anashim, Vetaam. Et il ramena tous les biens, ainsi que Lot son frère, et ses biens il les a ramenés, ainsi que les femmes et le peuple. Maintenant, donc Abraham a vaincu les quatre rois, il est donc maintenant un personnage très important sur le plan militaire et stratégique, et il a ramené avec lui donc les biens, et le peuple et les femmes. Quel peuple et quelles femmes? Les habitants de Sodome. D'accord. Donc, Abraham peut devenir maintenant le roi de Sodome. Non seulement roi de Sodome, mais en fait roi de toute la Transjordanie. Bah, parce que la Transjordanie a été complètement décimée. C'est lui qui la sauve, ça à lui. Donc, maintenant, si j'ai bien compris... Oui. Hein? Non, pas du tout. Au contraire. Alors, maintenant, ça veut dire que Abraham, en fait, domine. J'essaie de voir quel est l'empire d'Abraham. Il domine donc la Transjordanie. Il est également à la tête de la coalition dans la région de Hébron. Il est également, vous vous rappelez que dans la région de Bethel et de Haï, il a quelque chose aussi à lui, sans parler de Shrem, d'accord ? Qui est également avec ses alliés qu'il a amenés de Haran. Donc si j'essaie de comprendre à quoi ressemble le pays d'Abraham, ça ressemble à peu près à ça. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Ça ressemble à la Transjordanie plus la Cisjordanie actuelle. D'accord?
Juste, c'est quoi Transjordanie et Cisjordanie?
Ce sont des mots en français qui désignent des aires géographiques. La Transjordanie, c'est ce qui est au-delà du Jourdain. Ouais. Et la Cisjordanie, ce qui est en deçà du Jourdain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Judée-Samarie.
Ok, mais on compte Israël dedans ou...
C'est quoi Israël? Bon, maintenant, verset Yudzaïn. Vayetse meler Sedom likrato, et le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Donc il est encore vivant, lui. D'accord? Abraham peut lui dire, tu ne m'intéresses pas, qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Haré Shuvo Meakot et Kedor Laomer, après qu'il soit revenu de frapper à Kedor Laomer, Vetamelachim, Acherito, et les rois qui étaient avec lui, El Emek Chavé, dans la plaine de Chavé. Non, dans la plaine, dans la vallée de Chavé, pardon. Ou Emek Hameler, qui est la vallée du roi. C'est où ça, Emek Hameler ou Emek Chavé? Eh ben, non, simplement. Si vous regardez dans le livre de Shemuel, Shemuel Bet, au chapitre Yutret, au verset Yutret, vous découvrirez que le lieu appelé Emek Hameler, c'est la vallée qui est à l'est de Jérusalem, entre le mont des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le Kidron aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'Abraham arrive à proximité de Jérusalem, à la tête de son armée triomphante. D'accord? Maintenant, la ville de... Pourquoi ça s'appelle la vallée de Chavé? Chavé veut dire égal, n'est-ce pas? Égal. Alors, regardez ce que dit Rashi. C'est quoi, chez Emek Chavé, au verset Yudzaïn, là où Rashi dit « ou Midrash Agada ». Il y a un Midrash qui nous dit « Emek Shehushvu Sham Kola Umot ». C'est la vallée où toutes les nations se sont mises d'accord. C'est l'ONU, quoi. D'accord? Vimlichu et Avraham Alehem. Et ont couronné Avraham sur eux. L'Inissi Elohim ul Katsin. Comme un prince de Dieu, comme un dirigeant. Ça veut dire que Avraham peut maintenant devenir le chef politique de tout le pays. Il arrive à Jérusalem. Ça veut dire qu'en fait, ce que devrait faire Abraham, il devrait maintenant donc faire de Jérusalem sa capitale et régner sur Eretz Israël, faisant ce que Dieu lui a dit. C'est à toi que je vais donner cette terre. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, ça ne va pas se passer. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Ou Malkitsedek Meler Shalem, et Malkitsedek roi de Shalem, Shalem étant l'ancien nom de Jérusalem, Hotsi Lechem Vayain, avait fait sortir du pain et du vin. Ça veut dire qu'il va recevoir Abraham, où ça? En dehors de la ville. Au lieu de laisser Abraham rentrer dans la ville, il va le recevoir à l'extérieur. Il lui dit, ici tu n'entres pas. Pourquoi? Vehu Chohen Le'el Elyon, lui était le prêtre du Dieu suprême. Ça veut dire, au nom de quoi est-ce que tu veux fonder ton état, toi Abraham? Au nom du monothéisme que tu représentes. Il y a d'autres monothéistes que toi dans ce pays. Et donc, tu n'entres pas. Il va bénir Abraham, très poliment. Vaivarechou vayomar, il l'a béni et lui dit, Baruch Avraham le'elyon konesh hamayim va'aretz. Béni soit Abraham pour le Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. Ou Baruch el'elyon asher migen tsayrecha bi'adecha, béni soit le Dieu suprême qui a livré tes ennemis dans tes mains. Vaiten lo ma'aser mikol, il lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire, Abraham lui donne une dîme. Maintenant, ça se passe où tout ça? Donc, à côté de Jérusalem, sur le mont des Oliviers probablement, au mont Scopus. Et qui c'est qui est là-bas? Il y a Abraham, il y a Malkitsedek, et qui est encore là-bas? Non, le roi de Sodome. Il est là. Il attend qu'on le laisse parler, quoi. C'est le roi de Shalem. C'est ce qui est écrit dans le verset Yutret. D'accord? D'après les Midrashim, il s'agit de Shem, fils de Noah. D'accord? Quoi? Shalem, c'est Jérusalem. D'accord? Donc, en fait, ce que lui dit Malkitsedek, je te félicite, tu es un bon élève. D'accord? C'est comme si Malkitsedek se sentait comme une autorité spirituelle supérieure à Abraham, et donc il va bénir Abraham. Ça se trouve beaucoup dans les... Il y a des écoles occultistes, jusqu'à ce jour, qui voient dans Malkitsédek l'origine des religions. Et donc, c'est lui qui donne le tampon de cacheroute aux différentes options spirituelles. Et donc, il serait celui qui donne le certificat à Abraham. D'accord ?
Bon, on va... Il était monothéiste
aussi ? Oui, c'est ce qu'il lui dit. « Elélion, je suis le prêtre du Dieu suprême. » D'accord ? Donc, tu peux arriver jusqu'à Jérusalem, mais sache qu'à Jérusalem, il y a d'autres monothéistes que toi. Et donc, tu n'entres pas sur le Harabait. Alors, comment ça se passe ? « Vayomer veler Sedom et l'Abraham. » À ce moment-là, le roi de Sedom dit à Abraham, « Tenli anefesh varichush kachlach. » Donne-moi les âmes et prends les biens. C'est-à-dire qu'Abraham pourrait lui dire, tu ne reçois ni l'un ni l'autre. D'accord? Mais le roi de Sodome, donc, implore la générosité d'Abraham. Il dit, donne-moi les habitants de Sodome et toi, tu vas prendre le butin. Vayomer Abraham et Melech Sodome, Abraham dit au roi de Sodome, Arimoti a dit, je lève ma main, c'est-à-dire je prête serment, et la Shem et la Elion connaît Shamaim Varetz, à Dieu qui est le Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. Est-ce que vous avez remarqué la différence entre l'expression de Malkitsédek et celle d'Abraham? Malkitsédek connaît El Elyon, le Dieu suprême. Le Dieu suprême ne réside pas parmi les hommes. Il est suprême. Il est supérieur. Tandis que ce que dit Abraham, Hachem El Elyon. Hachem, c'est-à-dire celui qui réside parmi les hommes, qui est aussi le roi, qui est aussi le Dieu suprême. Ça veut dire que ce que dit Abraham, l'élève est plus grand que le maître. Et il va surmonter celui qui a la prétention donc de donner l'aval spirituel. Abraham dit, tu as certainement des mérites, mais moi j'en ai plus que toi. Maintenant, il dit ça dans son discours, dans sa réponse au roi de Sodome. Et qu'est-ce qu'il va dire? Im mi'hut v'atzeroch na'al. Ni d'un fil, ni d'un lacet. Et veim ekar mikol asher lach, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Velo tomar ani esharti et Avram, et tu ne diras pas, j'ai enrichi Avram. Conclusion, Abraham renonce à tout. Il refuse d'être roi de Sodome. Bizarre. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait accepté d'être le roi de Sodome? D'abord, ça veut dire que les habitants de Sodome seraient devenus des élèves d'Abraham. Or, Abraham les a refusés. Ils sont tombés très bas. On le sait par la suite, n'est-ce pas? C'était une ville méchante et que Dieu a détruite. Au moment où Dieu veut détruire Sodome, il le dit à Abraham. Qu'est-ce que dit Abraham? Pas question. Tu ne vas pas détruire Sodome. Pourquoi Abraham prend ça tellement à cœur? Parce qu'il se sent responsable. Il dit, c'est de ma faute. Si je m'en étais occupé, il ne serait pas tombé. Maintenant, on peut comprendre le refus d'Abraham. Abraham se dit, voilà, quand je suis venu avec des accompagnateurs de Haran, Dieu m'a dit, laisse-les tomber. Je les ai laissés tomber. Je suis revenu d'Égypte avec d'autres personnes, ils ont fait des problèmes, j'ai dû me séparer d'eux. Alors maintenant, je ne vais pas prendre encore une troisième population. Mais en fait, c'était ça l'erreur. Cette population était d'Eretz Israël. Les Sodomites, ce sont des Eretz Israéliens.
C'est pas sa descendance.
Quoi, c'est pas sa descendance, mais il aurait dû s'en occuper. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham refuse de se servir du levier politique pour faire de la religion. Il sépare la religion de l'État. Or, comme moi, je m'occupe de diffuser un contenu spirituel, je ne vais quand même pas maintenant devenir le roi de la région. Je veux aller un peu plus loin.
Ça peut aller ensemble.
Ça, c'est certainement que ça doit aller ensemble. Toute la Torah est un projet politique. Mais Abraham est en réticence par rapport à ce projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez que nous avons vu qu'il y avait deux projets, celui d'Abraham et celui de Dieu. Celui d'Abraham était la diffusion du monothéisme dans un contexte cosmopolite, tandis que Dieu lui dit « tu vas fonder une nation ». Or, Abraham a une réticence par rapport à ça.
Là, qu'est-ce... Oui. On voit plein de trucs qui posent problème face à Abraham. Quoi.
Oui, Abraham, non, c'est pas des problèmes, ce sont ce qu'on appelle de l'apprentissage. C'est des choses qui sont pour nous des évidences, sont devenues des évidences après que ça a été prouvé, une fois que ça a été mis à l'épreuve. D'accord? C'est-à-dire, comment? Il y a un enfant qui apprend la table de multiplication. Il ne sait pas encore combien ça fait 4 fois 5. C'est terrible. Non, c'est pas un problème. Il n'a pas encore appris combien font 4 fois 5. Ça fait 32. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Quoi?
4 fois 5, 12.
C'est ça. Oui, bon. Merci de m'avoir corrigé. Oui. Bon. Donc, il y a ici tout un problème qu'Abraham va devoir résoudre. Regardez au verset Kaf Dalet. Bil'adai rak asher achlo anéarim v'chelek anashim asher alchou iti. À l'exclusion de ce qu'ont mangé les jeunes, c'est-à-dire les soldats, et la part qui revient aux hommes qui sont venus avec moi, aner eshkol ou mamre, hem ikru chelkam, eux ils prendront leur part. Ahar hadevarim ha'ele. Que veut dire le mot ahar?
Après.
Est-ce que vous connaissez un autre mot pour après? Aharé. Quelle est la différence entre ahar et aharé? C'est vrai que c'est un yud, mais que signifie la différence de signification? C'est un pluriel, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que après, aharé, ça veut dire longtemps après. Ahar, ça veut dire immédiatement après. Ça veut donc dire que si la Torah nous dit ahar adevarim ha'ele, ça veut dire que ce que nous allons lire est la conséquence de ce qui s'est passé. Ahar adevarim ha'ele, aya devar Hashem el Avram, bamachazé les morts. Et Dieu, et la parole de Dieu est apparue à Avram dans une vision en lui disant, maintenant, rappelez-vous une chose. Avram vient de gagner une guerre extrêmement difficile. Il a battu 4 rois qui ont vaincu 5 rois. Donc c'est quelqu'un de très fort. Maintenant, si au moment où commence la guerre, vous vous mettez à la place d'Abraham, il se dit, oh là là, il y a 4 rois contre lesquels je vais devoir la guerre. Qu'est-ce que vous ressentiriez?
La peur.
La peur. Mais une fois que vous avez gagné. Qu'est-ce que Dieu lui dit après qu'il ait gagné? Altira Abraham, n'aie pas peur Abraham. C'est facile. Ça veut dire venir au secours de la victoire. D'accord? T'en fais pas, n'aie pas peur. Ça va pas. Quelque chose n'est pas clair. Ça veut dire qu'Abraham avait peur de quelque chose, mais de quoi avait-il peur? C'est ce que nous verrons la prochaine fois.
Chaim Banim.